Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphane. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane, tu es ici pour nous annoncer une date en fin de semaine qui s'appelle Tout de suite, une soirée qui se déroulera donc au Café de la Chaudière.
Absolument, à ouais, sous la bonnetterie, rue des Aqueducs, là-bas, ou vers les fonds d'eau. Il commence à se passer beaucoup de concerts là-bas assez régulièrement. Et puis là, il s'agit d'un groupe, une compagnie qui s'appelle Tout de suite, qui propose un show assez spectaculaire. Une espèce de comédie musicale cabaret, très un peu érotique et très orientée sur l'amour et le sexe. Ça s'appelle d'ailleurs « Je ne croyais plus à l'amour ».
D'ailleurs, l'affiche est très bien descriptive de la teneur du spectacle.
Voilà, on essaye d'attirer l'attention par tous les moyens. Donc on a pris une affiche basée sur une carte postale, de chez Plaisir en Belgique que François vend dans sa boutique, l'entrepôt.
C'était en vogue, hein, ce type de carte postale dans les années 70, à mon souvenir.
Oui, c'est ça, avec des images un peu frappantes, très colorées, et avec un peu d'humour dedans.
On trouvait ça surtout sur les plages, hein, à l'époque, au camping, l'été, de toute façon.
Ouais, puis on en trouve encore. Moi, qui vais souvent dans le sud de la France pour des raisons familiales, je vois souvent des cartes postales un peu des versions modernisées de tout ça, avec des filles en bikini et des trous dans les cartes postales.
Est-ce que ça se limite uniquement aux femmes en bikini ou on peut en trouver aussi plus dans les terres
Alors j'en vois pas tellement, mais j'avoue quand même que j'ai un penchant beaucoup plus net pour les cartes postales que de plaisir qui sont toujours chargées d'un humour assez fin, quoi.
C'est vrai, toute une poésie qui disparaît encore aussi.
Ouais, en tout cas dans les gros trucs bien industriels, ça c'est sûr, mais bon, j'espère que... Enfin, je crois que cette poésie-là, elle existe beaucoup dans les petits endroits et dans les petits lieux comme la Chaudière, justement, où on peut proposer des créations à la fois où il se passe vraiment quelque chose de poétique et d'intéressant et de joyeux et dans un esprit convivial, quoi.
On va revenir à tout de suite. Donc, il y a combien de personnes qui œuvrent ?
Alors, sur scène, c'est un duo. Et ils ont aussi quelqu'un qui s'occupe des lumières. Donc, il y a une fille qui s'appelle Manon qui joue le rôle principal, qui chante. Hein, et enfin, qui est. Donc, l'acolyte est un garçon dont je ne me souviens plus le nom. Mais donc, c'est un duo sur scène qui fait des chansons un peu vraiment dans la grande tradition de la variété française. Mais avec toujours un humour très porté sur le sexe.
Une soirée très slow ?
J'espère pas. Leur show, ça s'appelle un hyper show, donc j'espère que ça sera bien, bien spectaculaire et dynamique. Et puis d'ailleurs, il y aura en première partie, pour chauffer un peu la salle, Jean-Hervé Marouin, le chanteur de la Marouani Corporation, qui proposera quelques chansons de son cru, dont quelques nouveaux tubes qu'il sortira pour l'occasion.
D'ailleurs, il y a un album qui est sorti de toutes ces chansons.
Non, elles sont disponibles sur Internet en général. Il y en a certaines qui sont conservées jalousement pour les spectacles. C'est bien aussi que les gens, on se dit à la Marouani Corporation, que c'est bien que certaines chansons n'existent qu'en spectacle. Comme ça, ça permet d'avoir des surprises, quoi, tout simplement.
Alors ce duo, tout de suite, quel est le registre musical qu'on pourrait y entendre ?
C'est vraiment de la variété électro, je dirais, contemporaine, quoi. Musicalement, c'est vraiment de cet ordre-là, avec des boîtes à rimes, des synthétiseurs, et puis des paroles très coquines, comme on dit maintenant.
Un spectacle théâtral en même temps ?
Oui, il y a une vraie dimension théâtrale, et la chanteuse joue beaucoup avec le public. Elle est très provocatrice dans son attitude et elle joue beaucoup sur les codes en fait de la provocation.
Donc ça, c'est une soirée qui va débuter donc à quelle heure, vendredi 8 ?
Alors c'est vendredi 8 à la Chaudière, donc il y aura bien sûr un bar et puis un petit DJ set également. Ça se continuera jusqu'à 1h du matin normalement et ça coûte 7 euros voilà, pour la soirée. Et bien sûr, les organisateurs de la Chaudière nous demandent de bien préciser qu'il ne faut pas amener de chien parce que ça complique les choses.
Pareil pour les voitures. Hein,
voilà, il faut se garer au Méros.
Pas de place pour les voitures en hauteur.
Ouais, il faut se garer au parking du Méros à l'office du tourisme.
Tout de suite, pourquoi ce nom ?
Alors, il faudra leur demander, mais je pense qu'il y a un espèce d'impact assez indéniable quand on voit écrit tout de suite, où on se demande qu'est-ce que c'est.
C'est un peu l'air du temps aussi, où j'entends souvent dans certains médias dire que c'est une génération aujourd'hui qui a besoin d'immédiateté, qui n'a plus le temps d'attendre.
Oui, voilà, bah, y a un truc comme ça. Et puis je pense qu'aussi c'est un jeu sur... pareil, y a, dans tout le travail de tout de suite, y a, la dimension sexuelle est omniprésente. Et donc il y a aussi ce petit jeu sur le « j'ai envie d'écouter tout de suite ».
Je ne croyais plus à l'amour et je t'ai rencontré. Avant, pour moi, l'amour était une idée abstraite. Idée abstraite devient concrète et je sécrète l'amour. Ma bite est pleine d'amour pour toi. Ah, mes couilles se dilatent, j'ai peur qu'elles n'éclatent.
Je ne croyais plus à l'amour et je t'ai rencontré. Avant, pour moi, l'amour était une idée abstraite. Idée abstraite devient concrète et je sécrète l'amour. Ma chatte est pleine d'amour pour toi. Oh, oh. Mes lèvres se dilatent, j'ai peur.
Je ne croyais plus à l'amour et je t'ai rencontré.
Avant, pour moi, l'amour était une idée abstraite.
Idée abstraite
devient concrète
et je sécrète.
De Jean Marouin.
Ouais, Jean Marouin.
Comment va sa carrière ?
Oh bah, sa carrière va très bien. Il interprète les tubes de la Marouani Corporation au fur et à mesure qu'ils sont produits par les studios de la Marouani Corporation. Et il se prête au jeu avec brio, je trouve, en interprétant des tubes de tous les styles, dans tous les domaines, pour apporter à la clientèle de la Marouani Corporation ce qu'elle attend.
Une entreprise qui s'internationalise, hein.
Oui. D'ailleurs, certains des ouvrages de la Marouani Corporation commencent à être traduits dans des langues étrangères. Et puis, par ailleurs, la Marouani Corporation a une actualité livresque, par ailleurs, puisqu'on sort de nouveaux livres à la rentrée. Là. Un guide pour réussir dans la musique qui s'appelle « Pas de talent », qui permettra à ceux qui n'ont pas de talent de réussir dans le music business. Et également un ouvrage d'art publié par la Fondation Marouani pour l'art contemporain qui propose sa première monographie d'une artiste qui réalise des monochromes.
On va peut-être en débattre un petit peu plus ou développer un peu plus. Donc, ce premier ouvrage dédié aux sans-talents, parce qu'il y a une réelle demande d'un public pour ce type d'ouvrage et peut-être d'acquérir les qualités de quelqu'un sans talent.
Voilà, c'est ça. Bah, en gros, il y a effectivement une réelle demande parce qu'il y a une large partie du public qui n'a pas vraiment de talent et qui ne souhaite pas particulièrement travailler. Donc, il y a un créneau pour leur proposer des outils pour réussir dans le show business en général, hein, on parle du music business, mais c'est le show business en général, sans travailler, avec un minimum d'effort. Voilà. Donc c'est un guide en quelque part. On a plein d'exemples dans le paysage du show business de gens qui n'ont aucun talent et qui n'ont pas particulièrement travaillé et qui se retrouvent au sommet du show business. Donc c'est possible et nous expliquons comment faire.
On peut en citer quelques-uns, auteurs, je ne sais pas si c'est trop, mais pour peut-être éveiller une vocation pour certains.
Oh ben, ça va de Florent Pagny à Nabila, par exemple. Ce sont des gens dont le talent est complètement discutable, mais qui ont trouvé des solutions, et qui n'ont pas particulièrement travaillé d'ailleurs, et qui ont trouvé des solutions, en revanche, pour se retrouver en haut de l'affiche.
Ça leur se révèle parfois très coûteux à certains, comme Florent Pagny.
Ah, il faut faire des choix, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est quelque part, ça s'adresse aux gens pour qui la gloire est plus importante que tout le reste. La gloire à tout prix, comme on dit.
Et pour qui?
Ah, bah ça. Sans doute pour faire plaisir à son papa qui est mort depuis longtemps.
On peut en décrire une ou deux méthodes, justement, pour acquérir cette qualité d'être sans talent.
Ah ben non, parce que c'est payant, et je ne vais pas vous révéler gratuitement ce qui est payant, mais tout ça me fait penser à une citation d'un acteur que j'aime bien qui s'appelle Jean-Pierre Bacri, qui disait que quand on a 3 ans, on dessine un truc tout moche et puis notre mère nous dit que oh, comme c'est beau, et puis après les artistes passent toute leur vie à essayer de retrouver ce moment-là.
Voilà. Et puis, on va passer au second ouvrage, et c'était par rapport à...
Une monographie de Laurence Stern, qui est une artiste contemporaine, qui produit des monochromes. Et donc la Fondation Marouani pour l'art contemporain a décidé de mettre en avant cet artiste, dont l'œuvre est vraiment méconnue. Et donc, elle a fait l'acquisition de l'ensemble de ses œuvres, qui sont tous des tableaux monochromes carrés. De couleurs, chacun d'une couleur, et qui ont tous un titre, voilà. Et donc, l'ensemble de ces tableaux ont été reproduits, et ces reproductions ont été regroupées au sein d'un ouvrage qui s'appelle Monochrome, qui est une monographie de Laurence Stern, qui, quelque part, invite à la réflexion sur l'histoire de la monochromie, dans l'humour et dans l'art contemporain et dans le concept. C'est toute une réflexion sur l'art minimal, en quelque sorte.
Oui, cet art minimal qui a occupé une grande partie du XXe siècle, hein, dans l'art.
Absolument, et qui continue d'être...
Et qui a débuté avec Malevitch dans l'histoire.
Absolument, et qui se poursuit quelque part avec Soulages aujourd'hui, pour prendre un exemple. Et puis même qui existe en musique, hein. Bon, on a John Cale, évidemment, mais où il y a même aujourd'hui, j'ai vu que récemment, j'ai oublié, Sylvain Chauveau a produit une musique qui dure plusieurs années, et donc dont la dimension est minimale et maximale à la fois.
C'est une note, c'est comment ça se présente?
Oui, c'est peu de notes. C'est peu de notes, mais le concept est que ça ne s'arrête pas pendant plusieurs années. Voilà. Donc c'est la poursuite du minimalisme quelque part.
Et ça, c'est une musique qui est actuellement jouée en ce moment même?
Je crois que ça continue encore, oui. Je sais que ça avait commencé au milieu des années 2010 et il me semble que ça continue.
Et comment ça se passe? Enfin,
C'est chiant.
C'est chiant. Il y a un relais de musiciens pour...
Je ne sais pas, non, je crois que c'est généré électroniquement, il me semble. Oui, il ne faut quand même pas trop se fatiguer.
D'accord. On va peut-être parler un peu plus de Laurence Stern.
C'est une artiste qui par son pseudonyme même, qui est son nom d'artiste, hein, c'est pas son véritable nom, dans son nom d'artiste, elle rend hommage à un auteur anglais qui s'appelait Laurence Stern, qui a écrit le premier roman, un des romans très très importants de l'histoire de la littérature, au même titre que Don Quichotte. Dans lequel Laurence Stern, pour la première fois de l'histoire, utilise la typographie comme outil narratif, en écrivant des choses plus gros, en utilisant la typographie. Et dans ce livre, à un moment, le personnage principal a un accident. Ça se passe en bas de la page de gauche, il a un accident. Et sur la page de droite, il y a un grand carré noir qui représente la mort de ce personnage. On comprend que ce personnage est mort, et c'est un peu, c'est 1700 et quelques, je ne sais plus la date de ce livre, et on comprend donc qu'il est mort, et c'est un peu le premier usage attesté de l'outil monochromique pour, dans l'art, quoi. Donc on a un carré noir qui représente la mort d'un personnage, c'est un peu le premier monochrome de l'histoire, voilà.
Et aujourd'hui, ce livre donc est toujours distribué ou édité, du moins avec cet aplat de noir.
Voilà, il a été réédité à maintes reprises. Hein, donc là maintenant, je ne sais plus qui l'édite en France, mais il y a sans doute plusieurs éditeurs qui le publient, justement en respectant cet aplat de noir. Et il y a plein d'autres choses, hein, dedans, d'ordre typographique.
Est-ce que c'est un noir spécifique ou alors il est à la libre préférence de l'imprimeur ?
Exactement, il est à la libre préférence de l'éditeur. Et voilà, on n'est quand même pas dans les critères de l'art encore.
Non, il n'y a pas non plus le plus beau noir appliqué dans ce livre, dans toutes les éditions sorties.
Non, voilà, c'est ça. C'est le problème aussi. Alors, pour parler de l'édition, puisque c'est là que nous sommes, le noir en édition, c'est très compliqué, parce qu'il faut que les imprimeurs... Enfin, ça dépend du papier, de la densité de l'encre. Et il ne faut pas trop en mettre parfois pour qu'on puisse lire. Et des fois, il faut en mettre beaucoup pour qu'il y ait des beaux aplats. Donc, c'est très compliqué, le noir en imprimeur.
À l'époque, nous, on mettait 50% de cyan en 6 millilitres avant d'appliquer le noir. Ça te permet de tenir dans le temps.
Oui, en effet. Et puis ça donne une densité également. Ouais.
Ça pouvait être le rouge peut-être aussi, hein, mais peut-être que le bleu était moins cher. Quel est cet intérêt pour l'art ? C'est une analyse que je demande de ta part, Stéphane. Pour ces aplats, qu'est-ce qui a révolutionné les artistes du fait de ces aplats, de ces monochromes ?
Bah, ce qui est intéressant dans le monochrome, mais dans plein d'autres idées finalement, parce que le monochrome c'est une idée, c'est que c'est une idée qui a d'abord existé dans le roman de Laurence Sterne, mais aussi qui a été utilisé de manière humoristique par des artistes, enfin, ou par des bouts en train, comme Alphonse Allais avec son album Primo Avrilesque, qui est un petit livret qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Sur Google Books, on trouve l'album Primo Avrilesque d'Alphonse Allais, et ça date de 1880 et quelques. Et cette idée de faire du monochrome existe aussi bien dans le registre de l'humour que un peu plus tard dans le registre de l'art conceptuel. À mesure qu'on s'éloigne de la figuration, qu'on va vers l'abstraction, l'aboutissement finalement de ça, c'est la couleur juste, ou la matière. C'est un peu comme des musiques abstraites aussi, quoi. On arrive à la couleur et à la matière sans aucune représentation. Mais déjà, les impressionnistes préfiguraient ça. Il y a un tableau de, je ne sais plus, Monet, je crois, je sais plus, qui s'appelle Impression d'une vitre posée sur la neige, un truc comme ça, où il y a l'idée qu'on ne voit que du blanc finalement, et tout se mélange. Comme quand on est dans une tempête de neige finalement, on ne voit plus que ça. Donc les impressionnistes ont vraiment préfiguré ça, et puis on arrive à des choses qui, en tout cas dans l'histoire de l'art, ont une importance, mais finalement on avait trouvé ça assez intéressant à la Marmaille Corporation de relever qu'une même idée peut être perçue juste comme un canular un peu idiot ou une révolution artistique.
L'ouvrage sur le monochrome que tu édites, donc, sera-t-il imprimé en quadrichromie ou en monochromie ?
En quadrichromie, chaque page aura une couleur, puisque chaque tableau a une couleur. En revanche, la couverture est entièrement blanche. Mais d'ailleurs, cet ouvrage est déjà disponible à l'entrepôt, Adi. Sa caractéristique est que sa couverture est entièrement blanche, et le titre est inscrit en typographie sur la couverture, juste par compression, par gaufrage. Donc on ne voit rien d'autre que du blanc, mais on voit écrit monochrome dessus.
Un hommage à l'album blanc des Beatles ?
En quelque sorte, qui s'inscrivent dans la grande tradition de la monochromie.
Alors oui, cet ouvrage, ça parle donc d'une artiste, Laurence Sterne, qui est née en quelle époque et où ?
Alors, c'est une artiste contemporaine qui vit à Béziers. Elle est née en 1941 à Béziers. Elle continue de travailler à l'heure actuelle.
C'est un peu dur pour elle actuellement de vivre à Béziers.
C'est toujours la question. Hein. On pense que pour les artistes, peut-être une ambiance délétère au niveau social peut affecter leur travail, mais aussi tout aussi bien, ça peut enrichir leur travail.
Tu parlais tout à l'heure de quadrichromie. Est-ce qu'il y a quand même une réelle difficulté à reproduire au mieux une œuvre d'art ?
C'est tout l'enjeu. Alors, et d'ailleurs, les différentes techniques existent. Hein. On prend souvent une photographie de l'œuvre qu'on reproduit, ou alors maintenant on peut les numériser, mais c'est compliqué également. Mais c'est sûr qu'on n'obtient jamais la même qualité de couleur avec la quadrichromie. Comme tu le sais, le bleu clin, on ne peut pas le reproduire en quadrichromie, quoi. Très simplement. Donc il y a plein de choses comme ça, mais nos techniciens se sont efforcés de faire au mieux et de faire en sorte que l'émotion véhiculée dans ces tableaux soit aussi véhiculée dans la monographie.
Vous avez eu peut-être recours aussi aux teintes Pantone, peut-être, pour vous rapprocher au mieux ?
Alors, pas dans ce cas-là, mais parce que là, ça aurait été un peu exagéré.
Et cher, surtout.
Ça aurait été triché, quelque part. Alors, nous sommes efforcés d'aller au plus près des peintures, mais voilà, oui. Ce qui nous a paru important, c'est de conserver l'émotion.
On peut peut-être demander aussi ce que voulait exprimer l'artiste en créant ces monochromes. Quelle est sa démarche ?
Alors sa démarche est clairement de repenser également le rapport texte-image, puisque tous ces monochromes ont un titre. Et le rapport du titre et de l'image monochrome est toujours pertinent et a toujours un sens. Et donc son objectif est vraiment d'approfondir l'idée du rapport texte-image, puisque pour le coup le rapport texte-image, c'est notamment la bande dessinée, mais aussi les affiches, plein de choses, et pousser le rapport texte-image dans ses retranchements les plus profonds.
L'application ou même la création d'œuvres monochromes, est-ce que c'est aussi une démarche pour dire à un public stop?
Oui.
J'appelle jamais ma mère pour son anniversaire. Je ramasse pas les papiers que je fais tomber par terre. Je dis jamais pardon quand je bouscule quelqu'un. Je parle super fort dans les transports en commun. Je remets jamais le bouchon du dentifrice. Quand quelqu'un boule un feu, j'appelle pas la police. Je rase pas les couverts quand je fais la vaisselle. Je trie pas les déchets quand je sors la poubelle. Je regarde le pigeonnage, je prends de la MDMA. Je m'habille tout en noir, je me couche super tard. Je souris pas aux enfants, je mets pas mon clignotant. Je fais jamais mon lit, je dis jamais merci. J'en ai rien à battre, j'en ai rien à battre, j'en ai rien. Je porte jamais de casque pour faire de la moto. Je mange pas mes légumes, je dis plein de gros mots. Quand je suis à la piscine, je fais pipi dans l'eau. Je traverse la rue en des passages bouchés. Je pète dans le métro, je bois jamais mon thé. J'en ai rien à battre, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à battre. Je suis un malade, je suis un malade, je suis un malade. J'en ai rien à battre, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à battre.
Quelle est l'inspiration de toutes ces chansons et comment les prendre, dans quel sens et à quel degré aussi?
Ah bah ça c'est toute la question, mais l'inspiration est protéiforme. Certaines chansons sont véritablement des chansons de développement personnel qui permettent au public, grâce à la dite chanson, d'apprendre, mais d'acquérir des nouvelles connaissances ou d'acquérir de nouvelles informations. Et comme nous le savons, la musique permet de marquer les esprits et d'imprimer dans les cerveaux des messages importants. Donc parfois nous utilisons le pouvoir de la musique pour faire passer des messages importants et essentiels. D'autres fois, nous identifions un segment du marché, les enfants, les femmes, les adultes, les personnes âgées, les hippies, les punks, et nous développons un tube destiné à ce segment spécifique du marché, et ça nous permet de toucher l'ensemble de la population, en fait.
Donc vous utilisez certains algorithmes pour la création musicale, c'est ça?
C'est ça, alors les algorithmes permettent d'identifier le public et puis après c'est quand même le talent qui fait la différence.
Voilà, donc de la création purement contemporaine.
2.0.
Qu'est-ce qu'il y aura en prévision prochainement avec la Marwani Corporation et peut-être particulièrement dans le Diwa? Est-ce que vous avez prévu d'amener des nouveautés?
Eh bien, dans le Diwa, il y a Jean-Hervé Marouin qui chante vendredi à La Chaudière en compagnie du groupe Tout de Suite. Également, dans un hameau qui s'appelle Mont-Lahuc, c'est ça, qui est pas loin de Saint-Dizier en Diwa. Ça, c'est samedi 9 que ça se passe. Voilà les sorties des livres en fin d'année avec Pas de Talent et Monochrome qui est d'ores et déjà disponible. Et puis bon, ça fait beaucoup pour l'instant. On va essayer de. Et puis après, John Harvey Marwani part en tournée de séminaires dans toute la France pour apporter la bonne parole un peu partout aussi, parce qu'il n'y a pas que le Diwa, il faut s'occuper du reste de la France.
Et donc, pour acquérir ces ouvrages, comment faut-il procéder?
Alors, on peut toujours aller sur marwani.biz, B-I-Z, notre site internet, où on peut acquérir tous nos ouvrages. On peut aller dans toutes les librairies, où si la librairie est bonne, elle a déjà nos livres en rayon, mais si elle n'est pas très très bonne, on peut lui demander de les commander, puisque ces livres sont distribués en librairie, ou sinon, à Die en particulier, la boutique L'Entrepôt fait un travail remarquable en présentant l'ensemble de notre catalogue à un prix défiant toute concurrence.
Ce sont des ouvrages numérotés?
Alors ils peuvent l'être, et surtout puisque nous sommes dans le Diwa, on peut commander une dédicace particulière qui sera réalisée dans les 24 heures.
Et ces ouvrages, est-ce que ça n'exige pas de la maison d'édition un certain courage pour éditer des ouvrages aussi pointus et peut-être qui peuvent rater leur public?
Alors oui, en effet, mais parce que c'est un sacerdoce en quelque sorte d'éditer de tels ouvrages qui sont destinés à aider les gens à mieux affronter le monde. Donc oui, c'est du courage, mais nous ne sommes pas complètement idiots non plus à la Marwani Corporation. Nous faisons systématiquement des études de marché qui nous permettent de garantir que ces ouvrages vont avoir une efficacité commerciale apparable.
Donc des beaux jours encore pour la Marwani Corporation.
Oh bah nous croissons. Dans les limites du raisonnable.
Pardon. Eh bien, Stéphane, merci d'être venu nous parler.
Avec plaisir.
Et puis,
à vendredi pour le concert de Tout de Suite et de Jean-Hervé Marouin à La Chaudière.
Voilà. Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-terre-view.
Okay. The bird.